Alors, pour ce dernier cours de l'année, je voudrais vous présenter des réflexions d'ailleurs très brèves concernant deux questions qui s'appliquent, si je puis dire, à la généralité de ce que nous avons fait depuis 14 séances. Ces deux questions sont d'une part le problème de l'utopie, et d'autre part, le problème de la méthode ou de la non-méthode. Alors d'abord, l'utopie. Au début, quand j'ai conçu ce cours, j'avais pensé que ce cours sur le vivre ensemble occuperait 13 séances. Vous savez que le Collège de France, on est tenu de faire 26 séances, dont 13 cours, si on veut, enfin 26 séances, non pas si on veut, obligatoirement, mais ces 26 séances peuvent être réparties en cours et en séminaires. Donc au début, n'ayant pas beaucoup d'expérience, je pensais qu'il y aurait 13 cours et 13 séminaires. En fait, j'ai été amené à réduire le nombre des séminaires, et par là même à augmenter le nombre des cours, c'est-à-dire des séances du mercredi après-midi comme celle-ci. Donc au début, j'avais pensé qu'il y aurait 13 cours sur le vivre ensemble, et j'avais projeté de consacrer le 13e cours, qui est un chiffre fatidique, comme vous le savez, à la construction, devant vous, d'une utopie, du vivre ensemble idiorhythmique, puisque ce cours est parti de ce fantasme-là, comme je l'ai dit au début. Dans ce cas, qu'est-ce que j'aurais fait? Eh bien, si je l'avais fait, si j'avais vraiment voulu construire cette utopie, ou si je l'avais pu, j'aurais sélectionné les traits positifs du dossier parcouru. C'est-à-dire que j'aurais rassemblé tout ce qui, dans la façon de vivre des sujets très divers qui sont engagés, qui ont été engagés dans le corpus littéraire, tout ce qui, dans cette façon de vivre, que ça soit celle de la séquestrée ou celle des moines orientaux, tout ce qui m'aurait fait plaisir, m'aurait fait envie, et j'aurais ensuite coordonné et agencé tous ces traits pour produire une sorte de fiction quasi romanesque du vivre ensemble, qui aurait été le vivre ensemble d'un groupe à la fois contingent et anonyme. Et puis ensuite, et ou en même temps, si j'avais pu construire cette utopie, j'aurais voulu aussi à ce moment-là vous inviter vous-même à fournir des éléments, des bribes, des débris de figuration d'une communauté idiorythmique. Car je crois de plus en plus qu'il faut accepter et favoriser le travail projectif d'une œuvre, d'un discours ou d'un cours. Eh bien, ce 13e cours n'aura pas lieu. Ou ce 13e cours sur l'utopie, sur la fiction idiorythmique n'aura pas lieu, du moins sous la forme pure, c'est-à-dire purement subjective, que j'avais imaginée. Alors pourquoi est-ce que ça n'aura pas lieu? Eh bien d'abord pour des raisons contingentes que je ne cacherai pas. D'abord, si vous voulez, le manque de temps pour recueillir vos contributions. Et puis peut-être le manque d'entrain personnel lié à telle année, tel moment, telle phase de ma vie, le manque d'entrain personnel pour construire allègrement une utopie heureuse. Mais aussi, il y a eu une raison théorique qui m'est apparue peu à peu, et qui est celle-ci. C'est que l'utopie du vivre ensemble idiorythmique n'est pas une utopie sociale. Or, toutes les utopies écrites, tout ce que nous considérons culturellement comme des utopies écrites, ont été des utopies sociales, de Platon à Fourier, c'est-à-dire la recherche d'une façon idéale, disons, d'organiser le pouvoir. Et pour ma part, j'ai souvent regretté qu'il n'y ait pas, ou j'ai eu souvent l'envie qu'il y ait, et peut-être même j'ai eu plusieurs fois l'envie d'écrire moi-même, ce que j'appellerais une utopie domestique. Une utopie domestique, c'est-à-dire une façon idéale ou idéalement heureuse de figurer, de prédire le bon rapport du sujet à l'affect, au symbole. Or, ceci, à proprement parler, ce n'est pas une utopie. C'est seulement, ou si vous voulez, c'est excessivement, la recherche figurative du souverain bien. La recherche du souverain bien. Et par conséquent, on peut dire que, disons, le mouvement tendanciel du cours a été de décrire, mais je n'y suis pas arrivé, bien sûr, je me suis égaré en cours de route, ça a été de décrire le souverain bien quant à l'habiter, quant au fait d'habiter. Le souverain bien quant à l'habiter. Or, le souverain bien, ou sa figuration, mobilise toute l'extension et la profondeur du sujet dans son individuation, c'est-à-dire dans son histoire personnelle au complet. Et par conséquent, d'une utopie domestique, du souverain bien quant à l'habiter, seulement pourrait rendre compte, je dirais, une écriture. Une écriture, ou si l'on préfère, un acte romanesque, sinon un roman. Car seule l'écriture, à mon sens, peut recueillir l'extrême subjectivité, puisque dans l'écriture, il y a accord entre l'indirect de l'expression et la vérité du sujet. Et cet accord-là me semble impossible au plan de la parole, et donc du cours, qui est toujours, quoi qu'on veuille, à la fois direct, la parole est toujours à la fois direct et théâtral. Je dirais que, pour me référer à un livre qui est tout récent et donc dont le travail continue en moi, c'est bien normal, ce qui m'autorise à en parler, d'une façon peut-être un peu égoïste, mais je dirais que le livre sur le discours amoureux, on pourrait dire en un sens, ceux qui ont participé au séminaire de l'école des hautes études qui a été à l'origine de ce livre peuvent penser, et je leur donnerai raison, que le livre sur le discours amoureux a été en une certaine mesure plus riche au contraire que le livre, n'est-ce pas? Le livre est plus pauvre que le séminaire. Cela n'empêche pas que je tienne le livre, disons, pour plus vrai que le séminaire. Alors, je ne voudrais présenter ici donc que quelques principes apparemment objectifs et non pas subjectifs du bien idiorhythmique, du moins à ce que me fait croire l'analyse du corpus étudié. Donc, quelques principes objectifs parmi beaucoup d'autres de ce qu'on pourrait imaginer être l'utopie domestique ou l'utopie de l'habiter ensemble idiorhythmique. Premier principe, je veux rappeler simplement que ce savant anglais, Bion, B-I-O-N, dont j'ai parlé, qui a écrit un livre qui a été traduit en français aux presses universitaires sous le titre « Recherche au pluriel sur les petits groupes », eh bien, Bion a édicté, d'après ses études cliniques, les conditions de fonctionnement satisfaisantes d'un petit groupe, d'un groupe. Et voici quelles sont ses conclusions. Voici, selon lui, quelles sont les conditions pour qu'un petit groupe fonctionne bien. Il faut, premièrement, un objectif commun. Vaincre ou défendre, etc. Une cause commune, un objectif commun. Deuxièmement, il faut que le groupe et conscience des limites du groupe. Troisièmement, il faut que le groupe et la capacité d'intégrer ou de perdre des membres. Disons qu'il est une capacité de flexibilité. Quatrièmement, il faut que le groupe ne comporte pas de sous-groupe interne à limite rigide. C'est pas absence de sous-groupe interne à limite rigide. Cinquième condition, il faut que dans le groupe, chacun se sente libre et important. Libre et important. Et sixièmement, ceci pourra vous surprendre, il faut que dans le groupe, enfin le chiffre va vous surprendre comme il me surprend moi-même, il faut que dans le groupe, il faut qu'il y ait au moins trois membres. Trois membres. Pour qu'il y ait des relations interpersonnelles, car avec deux membres, ce serait des relations personnelles. Bon, ceci, effectivement, recoupe finalement une sorte de sentiment populaire qu'il y a une sorte de seuil qualitatif entre deux et trois, comme dit le dicton, ironiquement, deux c'est l'intimité, trois c'est la foule, n'est-ce pas ? Deux c'est l'intimité, c'est le couple, trois c'est le groupe. Et alors, deuxième principe, ceci amène au problème du nombre. Quel est le nombre optimal ? Comment imaginer le nombre optimal d'un groupe à idiorythmie, à organisation idiorythmique? Nous avons vu quelques suggestions de nombre à propos des idiorythmies du mont Athos. Je vous donne encore deux indications de nombre. Dans les monastères de Ceylan, les monastères bouddhiques de Ceylan, il y a en général seulement, le bouddhisme de Ceylan, je l'ai dit, et parmi les très nombreuses façons de vivre du bouddhisme ou du monachisme bouddhique, le bouddhisme de Ceylan est un bouddhisme particulièrement doux, particulièrement civilisé, si vous voulez, entre guillemets, et donc du point de vue du confort, particulièrement réussi. Eh bien, dans ces monastères de Ceylan, il n'y a jamais plus d'une dizaine de moines résidents, 10. Donc le nombre optimal, c'est 10. Dans des communautés modernes hippies ou para-hippies, aux États-Unis, on peut dire que ces communautés comptaient 20 ou 30 membres en moyenne. Et en France, les mêmes communautés, en moyenne, autour de 15. Bon, je dirais que mon sentiment personnel, puisque nous cherchons une utopie, c'est-à-dire un chiffre optimal, mon sentiment personnel, c'est que ces chiffres qui sont très faibles par rapport aux chiffres des monastères cénobitiques, n'est-ce pas ? Ces chiffres sont eux-mêmes excessifs. Je ne sais pas, il me semble que si j'avais à imaginer ou à faire un roman, comme je l'ai dit, autour de l'idée d'une communauté idiorythmique, d'amis par exemple, si j'étais législateur ou régulateur, je n'excéderais certainement pas le nombre de 8 ou 10. Troisième principe objectif, nous savons, je l'ai dit plusieurs fois, qu'en éthologie, c'est-à-dire dans la science des mœurs des animaux, en éthologie, dans les groupes d'animaux les plus serrés, les plus individualisés, les animaux qui vivent en banc ou en vol, les espèces apparemment les plus grégaires règlent cependant la distance interindividuelle. Et cette distance réglée entre les individus, qui vivent pourtant très serrés les uns contre les autres, cette distance, je l'ai dit, ça s'appelle la distance critique. Eh bien, je pense que ce serait le problème le plus important du vivre ensemble, ce serait de trouver et de régler la distance critique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, la distance critique ? C'est la distance au-delà ou en deçà de laquelle il se produit une crise. La distance en deçà ou au-delà de laquelle il se produit une crise. Vous savez, il ne faut jamais oublier l'étymologie, hein, Et il ne faut jamais oublier que le mot critique doit être attaché au mot crise. La critique littéraire, par exemple, on aurait toujours intérêt à penser qu'elle vise à mettre en crise. Mais ceci est une parenthèse. Alors, ce problème de la distance critique est d'autant plus aigu aujourd'hui que dans notre monde, qui est un monde, disons, industrialisé, ce qui coûte cher, c'est-à-dire le bien absolu, c'est la place. C'est ça qui coûte cher, c'est la place. Dans les maisons, la place, avoir de la place. Dans les maisons, dans les appartements, dans les trains, dans les avions, dans les cours, dans les séminaires, le bien véritablement luxueux, c'est d'avoir autour de soi de la place. C'est ça qui coûte le plus cher, c'est avoir autour de soi quelques-uns, mais pas beaucoup. Et c'est là le problème typique de l'idiorythmie. Ce qui fait que si l'on imaginait une sorte de règle télémite calquée sur la règle monastique, cela pourrait donner aujourd'hui ceci. Vous savez que dans la règle de Saint-Benoît, qui est une règle cénobitique, donc qui ne nous intéresse pas directement, mais je le cite, vous allez voir pourquoi, dans la règle de Saint-Benoît, l'abbé doit donner en propre à chaque moine des objets. Une fois que le moine est intégré dans la communauté, dans le couvent, l'abbé lui donne en propre des objets. Il lui donne une coule, c'est-à-dire un vêtement supérieur, une tunique, des souliers, des bas, une ceinture, un couteau, un poinçon pour écrire, une aiguille, un mouchoir et des tablettes. Donc, il s'agit ici d'un don d'objet qui, à l'époque, se fait selon le besoin vital. Tous ces objets représentent, si vous voulez, le minimum nécessaire et significatif. Car, bien entendu, à cette époque, ce qui coûte, donc qui fait un objet de don déclaré, ce qui coûte, eh bien, ce sont les objets fabriqués. Il ne faut pas oublier cette règle très simple d'économie historique, c'est que l'objet fabriqué a été pendant des siècles le véritable étalon de la richesse, n'est-ce pas? Et notamment, par exemple, jusqu'au XVIIIe siècle, toutes les études d'économie rétrospectives qu'on peut faire sur cette époque, ça consiste à tout ramener, par exemple, à la fabrication des miroirs, des glaces, parce que c'est ce qui coûtait le plus de journées de travail de l'ouvrier. Donc, pendant très longtemps, l'objet fabriqué était ce qui pouvait vraiment faire l'objet d'un don essentiel. Or, aujourd'hui, dans la société dite de consommation, l'objet fabriqué ne peut plus avoir ce caractère d'étalon, et parce que ces objets sont trop faciles et trop faciles à acquérir ou à donner et trop bon marché, donc trop peu de valeur pour constituer un don consacrant. On n'imagine pas, n'est-ce pas, un abbé de monastère donnant solennellement comme objet au moine au moment de son initiation, un stylo bille, un cahier, un couteau, des ciseaux, des choses comme ça. Non, ce qui coûte aujourd'hui, ce ne sont pas les objets fabriqués, c'est la place. Et donc, ce qu'on peut donner de plus précieux à quelqu'un, c'est de lui donner de la place. Donc, dans une règle utopique, le don essentiel, ce serait le don de place, qui assure la distance critique. Quatrième principe objectif, cette distance critique entre les membres de la petite communauté idiorythmique, c'est une distance qui est douée d'une valeur, au sens fort du terme. Alors, cette valeur ne doit pas être prise dans la perspective mesquine, n'est-ce pas, d'un simple quant à soi. La distance critique n'essaye pas seulement de préserver un petit quant à soi dans le vivre ensemble. Je rappelle que Nietzsche fait de la distance entre les êtres une valeur forte, une valeur rare. Et je le cite dans une formulation qui aujourd'hui sonne d'une façon excessive et provocante, mais par la même très réveillante, je le cite, « L'abîme entre homme et homme, entre une classe et une autre, la multiplicité des types, la volonté d'être soi, de se distinguer, ce que j'appelle le pathos des distances, le pathos des distances est le propre de toutes les époques fortes. Eh bien, la tension utopique qui gît dans le fantasme idiorythmique vient de ceci. Ce qui est désiré, je dirais, dans l'utopie idiorythmique, ce qui est désiré, c'est une distance qui ne casse pas l'affect. C'est cette quadrature du cercle, une distance qui ne brise pas ou qui n'uniformise pas l'affect. Et l'expression « pathos des distances » me paraît une très belle expression, dans la mesure où elle fonctionne un peu comme quelque chose d'extrême, de presque impossible à réaliser, une distance pénétrée, irriguée de tendresse, un pathos où entrerait à la fois de l'éros et de la sophia. Peut-être en son genre, avec les distinctions d'époque et d'idéologie, comme ce que visait Platon sous le nom de sophronistère. Le sophronistère, c'est un mot qui est construit comme phalanstère et comme acétère, n'est-ce pas, là où on fait de la sèse. Le sophronistère, sophron veut dire modéré, sage, et on peut imaginer un sophronistère où on arriverait à la fois à combiner Eros et Sophia. Alors on rejoindrait ici, je dirais, pour terminer ces quelques remarques sur l'utopie, on rejoindrait cette valeur que j'essaye peu à peu de définir sous le nom de délicatesse. Mot quelque peu provoquant dans le monde actuel. Délicatesse voudrait dire vivre selon la délicatesse, vivre ensemble selon la délicatesse voudrait dire vivre vis-à-vis des autres à la fois dans la distance et dans les égards. Ça serait accomplir ou réaliser une absence de poids dans la relation et cependant une chaleur vive de cette relation. Et le principe de délicatesse, ce serait de ne pas manier l'autre, de ne pas manier les autres, de ne pas manipuler, de renoncer activement aux images des uns et des autres, et d'éviter tout ce qui peut alimenter l'imaginaire de la relation. Et tout ce qui peut imaginer, tout ce qui peut alléger ou annuler ou périmer l'imaginaire d'une relation, c'est proprement utopique, puisque c'est l'image même du souverain bien. Une relation d'amour sans image, ce serait une relation parfaite et en quelque sorte éternelle. Voilà pour l'utopie. Et maintenant, la méthode, ou plutôt, et la méthode, point d'interrogation. Et qu'est-ce qu'on fait de la méthode dans tout ça? Ceux qui étaient là au premier cours se rappellent peut-être que j'ai commencé par rappeler une opposition nietzschéenne qui a été mise au jour très clairement par Deleuze dans son livre. C'est l'opposition de la méthode et de la paideia. On pourrait traduire par culture, mais le mot est mauvais. vous rappeler que la méthode, je cite, c'est ce qui correspond à une bonne volonté de penseur, je cite, à une décision préméditée, à un moyen droit délibérément choisi pour obtenir un résultat voulu. Donc la méthode fétichise, partout où elle est, la méthode fétichise le but comme un lieu privilégié à atteindre au détriment d'autres lieux possibles. Alors qu'en face, la païdéia, c'est simplement, ou d'une façon plus, au contraire plus compliquée, je dirais le tracé excentrique de, un tracé excentrique de possibilités, d'exploration de possibilités. La païdéia, ça consiste à tituber entre des blocs de savoir. Alors évidemment, ici, on ne s'est pas placé du côté de la méthode, mais plutôt du côté de la païdéia, ou pour le dire plus prudemment et provisoirement, du côté de la non-méthode. Ça veut dire, bien entendu, qu'on change de psychisme, c'est-à-dire qu'on opte pour une psyché contre une autre. Je dirais que la méthode implique, où qu'elle soit, et notamment dans les sciences humaines, la méthode, la référence constante à la méthode, la volonté de méthode, implique, je dirais, un psychisme phallique d'attaque et de protection, comme le disent bien les mots de volonté, décision, préméditation, aller droit, etc. Tandis que la non-méthode implique un psychisme du voyage, de la mutation, disons trivialement un papillonnage, un butinage. On ne poursuit pas un but, on expose au fur et à mesure ce qu'on a trouvé. C'est peut-être le propre d'une structure hystérique, je n'en sais rien. Je le penserai volontiers, puisque vous savez que l'hystérie est, enfin l'un des effets de l'hystérie, entre autres, c'est le trac. Le trac est un phénomène hystérique. Et je dois dire que tout au long de ces cours où j'ai pratiqué la non-méthode, le butinage et le papillonnage, eh bien, je n'ai fait aucun de ces cours sans trac. Indiquerait que je suis du côté de l'hystérie. En effet, quand je dis j'expose, n'est-ce pas, j'expose quelque chose, j'expose, eh bien, ça veut dire, bien sûr, je m'expose. J'expose, ça veut dire je m'expose. Et à cette question, se surimprime, sans doute, d'où le trac, la question fondamentale de l'hystérique, qui est à chaque instant, qu'est-ce que je vaux ? Qu'est-ce que je vaux ? Donc, pas de méthode, mais tout de même, vous avez pu le voir, une sorte de protocole, donc d'exposition du butin. Une exposition du butin, puisqu'il s'agissait de butinage. Alors, ce protocole, me semble-t-il, on peut le rappeler, enfin, nous l'avons vécu ou pratiqué, en cinq points que je vais rappeler. Premièrement, le problème des traits. Les traits, les figures, les cases. Alors là, c'est un problème, je me répète un petit peu, mais parce que je renvoie ici même au travail immédiatement précédent ce cours, qui est le travail sur le discours amoureux. Dans le discours amoureux, j'avais aussi proposé des figures de discours. Des figures de discours qui ressemblaient beaucoup aux figures que je vous ai proposées cette année. Et j'avais bien indiqué qu'il ne fallait pas entendre figure au sens rhétorique, comme on dit des figures de rhétorique, mais plutôt au sens gymnastique. Des figures de gymnastique, ce qui en grec se disait schéma. Schéma, sigma, chi, eta, mu, alpha, schéma, qu'il ne faut surtout pas traduire ici par schéma, car schéma, ça renverrait justement au phallisme de la méthode, tandis que le schéma, c'est, ou la figure gymnastique, c'est un geste d'action. En grec, le schéma, c'est ce qui s'appliquait, par exemple, aux gestes d'action de trois catégories de gens en action, principalement l'athlète, l'orateur et la statue qui est saisie, dont on saisit le geste en action. L'orateur en action, l'athlète en action et la statue qui reproduit un personnage en action. C'était le schéma. Eh bien, on peut dire que chaque figure est un schéma, mais donc pas du tout un schéma, c'est-à-dire toutes les figures que nous avons fait défiler, c'est chacune renvoie à l'attitude en mouvement de quelqu'un qui travaille. Ce quelqu'un qui travaille, en l'occurrence, c'était moi, mais vous aussi, peut-être en même temps que moi, ou avec moi, et de quelqu'un qui travaille sans tenir compte du résultat. D'où deux conséquences. Premièrement, on pose par une exposition, par figure, par schéma, schémata, on pose des cases. On pose des cases, n'est-ce pas ? La saleté, la xénithéia, la cédille, la chambre, ce sont des cases. Or, quand on a comme ça un espace de cases, on est très proche de ce qu'on appelait autrefois une topique. Une topique en rhétorique, c'est une grille de cases, c'est une grille de lieux qui se présente comme une grille de cases. Et ça veut dire que là où il y a une grille de cases, c'est à chacun à remplir ses cases, ou sa case, ou ses cases, comme il l'entend. Donc le cours, si vraiment il a été un peu cette topique de cases avec ses figures, ça ressemble à un jeu à plusieurs. Je me suis servi autrefois de la métaphore du furet, c'est-à-dire de l'anneau qui court entre tous les partenaires d'un séminaire, ou d'un livre, ou d'un cours. Je pourrais employer une autre image de jeu, à case, si je puis dire, ça serait le puzzle. Eh bien, dans ce cas-là, je suis simplement, ou j'ai été simplement, le fabricant ou l'artisan qui a découpé le bois de l'image, et vous, en principe, si vous voulez bien, rétrospectivement, vous êtes les joueurs, vous êtes ceux qui assemblez. Vous êtes ceux qui assemblez chacune de ces cases, de ces morceaux de bois bizarrement contournés. Par conséquent, l'ensemble des cases ou des figures du cours obéit à un principe de non-exhaustivité. L'exposition d'une figure n'est pas exhaustive. Chaque figure peut être complétée à l'infini, c'est-à-dire ce que je dis n'est pas exhaustif. Et deuxièmement, la liste des figures, bien entendu, n'est pas exhaustive. Alors, j'en profiterai pour aller peut-être un peu plus loin, peut-être aussi de façon à m'innocenter. Je dirais que le cours idéal, puisqu'on est à la fin d'une année de cours, on peut réfléchir un peu sur ce que serait un cours idéal. Et je dirais que le cours idéal, pour moi, c'est une idée qui me vient peu à peu, qui me travaille peu à peu, j'en suis pas très sûr encore. Mais le cours idéal, ce serait peut-être celui où le professeur, entre guillemets, disons plutôt le locuteur, n'est-ce pas, serait, donc ça c'est le cours idéal que je décris là, le locuteur serait plus banal que ses auditeurs. Ce serait la formule du cours idéal. Ou, donc, ce que dirait le locuteur, ou ce que dit, peut-être le conditionnel est trop, ce que dit, ou même ce qu'a dit le locuteur, serait en retrait par rapport à ce qu'il peut susciter. Je dirais qu'ici même, à tout instant, j'ai eu conscience de ce retrait, de cette banalité, et de la possibilité que vous aviez de trouver à l'occasion de chaque figure des idées, des notations ou des interprétations 100 fois plus importantes ou pertinente ou originale que celle que je proposais, et je le dis absolument sans aucune coquetterie, c'est une question, encore une fois, de méthode, enfin, ou de non-méthode. Tout dernièrement encore, quand j'ai parlé de l'excrément à propos de la séquestrée de Poitiers, j'ai eu tout à fait conscience qu'on pouvait traiter ce sujet avec infiniment plus de richesse que je ne l'ai fait. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment ressenti vivement, mais sans culpabilité, ma propre banalité. Si le cours, c'est une symphonie de propositions au sens propre du terme, il est certain que la proposition, pour avoir son efficacité, doit être incomplète. Une bonne proposition doit être incomplète. Sinon, si une proposition n'est pas incomplète, si elle n'est pas un peu banale, si elle n'est pas un peu faible, à ce moment-là, ce n'est pas une proposition, c'est une position. C'est une position, c'est-à-dire, c'est une sorte d'occupation phallique de l'espace idéel. Le rêve, pour un cours, ce serait, vous me direz que j'en suis peut-être bien proche, ça serait une sorte de banalité non oppressante, une banalité aérée, qui rejoindrait cette sorte d'éthique de la délicatesse que j'essayais tout à l'heure d'indiquer. Bon, donc, ça, c'est la première conséquence du fait que les figures sont des sortes de schémata, des figures au sens gymnastique. La seconde conséquence, c'est la suivante. Soit une vague allégorie qui est précisément le vivre ensemble. Alors, cette allégorie, ce qui est une figure du vivre ensemble, que j'ai essayé pendant donc 14 fois, d'approcher, disons, par des touches successives de vivre ensemble. Une goutte de ceci, une lueur de cela, c'est tout, on passe à autre chose. Et tant que c'est en train de se faire, on ne comprend pas où ça va. La méthode, ou en tout cas la technique, rappellerait à ce moment-là, dans l'ordre de la discursivité, ce qui s'est passé en peinture, sous le nom de tachisme, ou de divisionnisme, ou de pointillisme. Hein? Le principe, c'est, vous savez, qu'on juxtaposait les couleurs sur la toile au lieu de les mélanger sur la palette. Eh bien, peut-être, c'est ce que j'ai fait, j'ai juxtaposé les figures dans la salle de cours au lieu de les mélanger chez moi à ma table de travail. Hein? Donc, la toile, c'est ici. C'est pas sur ma table de travail où j'ai fait la toile, elle est ici.